Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Aurélie Taquillien, conseillère régionale LREM d'Île-de-France. Bonjour. Mathieu Cheng, directeur associé chez BVA Nudge Unit et cofondateur du site Délit d'Opinion. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Votre livre, La France sans dessus-dessous, est paru aux éditions Erol. Bonjour.
Bonjour.
À vous également. Et puis Gilles Gansman qui est resté avec nous pour le zapping de la présidentielle.
Sud Radio, le zapping de la présidentielle.
Ah, ils sont forts, les jeunes du numérique de Éric Zemmour. Ils croient à cette victoire. Et ils l'ont même imaginé. Alors ça y est, nous sommes le 24 avril 2022, il est 20h.
Voici notre estimation du résultat de la présidentielle. Éric Zemmour, qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. Regardez ces images, Jean-Jacques Msalem va nous les montrer, ces images de joie. Cette clameur des milliers de partisans dans la rue, voilà. Ils s'en doutaient, ils avaient bien sûr les indiscrétions. Eh bien, c'est cette joie qui s'est exprimée au grand jour.
Dans la rue.
Alors, c'est assez incroyable parce qu'on y voit le décor du journal
images,
de France 2,
absolument.
Il faut voir les images. Évidemment, David Pujadas, que vous entendez, a évidemment demandé que la vidéo soit enlevée, que son image ne soit pas utilisée. Mais c'est incroyable comment cette vidéo devient virale, où on voit donc le 20h qui annonce la victoire d'Éric Zemmour. C'est assez étonnant hein, comme vidéo.
C'est moins anecdotique que ça en a l'air.
Oui.
Ça utilise des gros leviers comportementaux parce que ça donne à voir le succès et l'effet de normes sociales. Le fait de donner à voir un Zemmour qui est élu avec une liesse populaire, eh ben, ça crée ce qu'on appelle un effet bandwagon.
Bandwagon,
c'est en fait, on va du côté du succès.
D'accord.
Et donc, quand on voit une norme sociale qui fait que tout à coup, il y a un candidat
c'est
qui
possible.
Va être élu, c'est possible. On voit la victoire, on voit l'euphorie de la victoire.
Et
donc,
tous
ça,
les codes, il y a tous les
tous
codes,
les codes
du 20h.
Du coup, ça, à la fois, ça banalise la victoire d'Éric Zemmour. Ça montre que derrière la victoire d'Éric Zemmour, en réalité, il n'y a pas de guerre civile. Et donc, ça normalise sa victoire hypothétique. Et en plus, ça génère, ce que j'ai dit tout à l'heure, une norme sociale. Ça veut dire que on donne le sentiment qu'il y a une majorité qui est autour d'Éric Zemmour.
Est-ce que c'est pas un peu le contraire, finalement? Non, mais genre, on se défoule, ça m'amuse, moi aussi. Ça donne des frissons, c'est rigolo à regarder, mais je suis pas du tout sûre que... Alors, maintenant...
Mathieu, qui est un grand spécialiste de l'opinion...
Ça banalise... En fait, ce qui est très intéressant, c'est que de tout à coup... Vous parlez d'Éric Zemmour en disant c'est amusant et il est élu président de la République, mais on l'ancre comme quelque chose qui est tout à fait du domaine du possible. Et du domaine du possible, sans que ça génère derrière de guerre civile, ce qui est l'argument des gens qui disent si Éric Zemmour demain est au pouvoir, vous allez voir, ça va être la guerre. Là, regardez, les images, elles sont fabuleuses. Avec une foule qui est en liesse, c'est le peuple français qui a tranché.
Donc vous dites que ça va très bien pour lui.
Je dis que cette vidéo
n'est pas anecdotique
et pas uniquement la guerre du LOL. Derrière, il y a toute une stratégie qui est pensée.
Et vous pensez qu'il travaille avec des communicants comme vous, c'est-à-dire extrêmement pointus, des spécialistes de l'opinion. J'irai pas jusqu'à la manipulation de l'opinion, mais pas loin.
On n'est pas dans la manipulation de l'opinion, mais ce qui est vrai, c'est que les sciences comportementales, elles sont utilisées aux États-Unis depuis très longtemps. Elles ont été utilisées au cœur de la crise du Covid, notamment avec le gouvernement. BVA Nudge Unit a travaillé avec le gouvernement pour essayer de comprendre les comportements humains et puis apporter des bonnes solutions. Ce qui est certain, c'est que la campagne d'Éric Zemmour, on l'a vu lors de différentes études, notamment sur la guerre Wikipédia, ils ont aujourd'hui une stratégie digitale virale qui est extrêmement élaborée.
Qui a fait la vidéo
Les jeunes de Zemmour. Je ne fais pas que des sons anecdotiques.
Alexis Bachelet, un avis sur cette... Vous l'aviez vu, cette vidéo?
Non, pas du tout.
Moi non plus, je ne l'ai pas vu.
Regardez, Gilles est là pour ça.
Pour vous alerter. Mais surtout, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est évidemment sur l'outil qu'a utilisé Donald Trump, c'est-à-dire Twitter, et que ces vidéos sont vues à l'international. Ça donne aussi l'image à l'international qu'il a ici en France une figure du président. Ils ne suivent pas forcément nos débats. Donc Twitter est mondial, il ne faut pas l'oublier. C'était ma première ligne, David Pujadas. Je me suis repris. Quand on est dans les bas-fonds du classement, qu'on a un seul espoir, on n'a plus qu'une seule idée, le vote en masse. S'il vous plaît, monsieur, un ticket de restaurant, un bulletin de vote, Nicolas Dupont-Aignan.
Alors d'abord, les sondages, c'est pas eux qui votent, c'est
le peuple.
Et j'en ai assez, je le dis très clairement, de cette prison du vote. Et si les Français sont écœurés de la vie politique et ne veulent plus aller voter, c'est parce qu'ils se disent, bah, ils ont déjà choisi les sondages, les médias, les temps de parole. Je dis aux électeurs, au lieu d'être dégoûtés, au lieu de manifester, au lieu d'être chez vous à râler, allez voter. Si les 47 millions d'électeurs vont voter, pas en fonction des sondages, mais en lisant les projets, eh bien tout changera. Donc j'appelle les Français à réagir.
Et du coup, ouais. J'ai changé de ligne, Valérie, j'étais dans le wagon suivant pour me faufiler. Et ben là, il y avait encore quelqu'un qui faisait la manche, Anne Hidalgo, le même discours. Allez, s'il vous plaît, votez.
Surtout, ce que cela dit, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Le pouvoir qu'ont chacune des Françaises et des Français, c'est le bulletin de vote. C'est le bulletin de vote. Et aujourd'hui, on essaierait de nous faire croire que tout est joué d'avance. Mais ceux qui ont le dernier mot en démocratie, ce sont les citoyens. Ceux qui décident, ce ne sont ni les sondages, ni je ne sais quelle enquête. C'est vraiment, à la fin, les citoyens.
Et oui, lundi prochain, vous ferez une émission sur les sondages, mais eux, ils n'y croient pas, forcément, vu leur score.
Derniers sondages, excusez-moi, partout aux États-Unis, en France, etc., ça n'a pas été très brillant aussi.
C'est-à-dire
ils avaient faux, les sondages.
Non, vous ne pouvez pas dire ça.
Si on prend la présidentielle, la dernière présidentielle de 2017, ils ne sont pas du tout trompés, ils ont été très proches de la réalité. Et François Fillon, qui était autour des 18-19 dans les sondages, était très proche dans les faits au jour de l'élection. Ouais. Et de la même manière, on avait vu la qualification d'Emmanuel Macron, qui était un tout petit peu plus haut que ce qu'il a été au dernier jour, mais les sondages ne sont pas du tout trompés pour la présidentielle. Effectivement, ça n'a pas été le cas pour les dernières régionales.
Oui, les régionales.
Un taux d'abstention qui était...
On avait très peur de la montée du Rassemblement national aux élections régionales et on a vu finalement que le Rassemblement national a été très bas dans toutes les régions de France.
Et notamment, vu au régional. Et notamment en raison d'une abstention très forte parmi les catégories populaires qui a expliqué le différentiel. Et puis un deuxième élément qui a joué aussi, ça a été la reconduction, la prime au sortant qui a été très forte dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France et qui a beaucoup joué en cas notamment durant cette crise
avec
du Covid.
Avec cette crise sanitaire,
Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant puis vous finirez votre zapping. Voilà, vous restez, vous faites des heures sup. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Votre dernier livre, La France sans dessus-dessous, est paru aux éditions Erol. Aurélie Taquillien, conseillère régionale La République en marche d'Île-de-France. Mathieu Cheng, directeur associé chez BVA Nudge Unit et cofondateur du site Délit d'Opinion. Et Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes et ancien député PS. On va parler de la chasse, évidemment, avec cet accident, cette tragédie ce week-end d'une jeune fille de 17 ans tuée accidentellement. Donc le sujet, une fois de plus, refait surface dans l'actualité. Ukraine-Russie, Macron tente de trouver un compromis, tente de réunir Biden et Poutine. Les Occidentaux sont-ils assez fermes avec Vladimir Poutine? On parlera du pouvoir d'achat et puis des parrainages. Des parrainages, évidemment, qui, là encore une fois, sont à la une de l'actualité. On continue avec vous, Gilles.
Vous n'aurez jamais le temps, Valérie.
Non, on n'aura pas le temps. On choisira. Gilles, continue votre zapping.
On continue le zapping pour finir. Ce son de Julien Drey qui est assez intéressant. Julien Drey, assez laconique par rapport. Alors, évidemment, ça faisait un lien juste avant où Nicolas Dupont-Aignan et Anne Hidalgo appelaient au vote et qu'il y ait des votes. Et Julien Drey, lui, sur CNews, disait si vous voulez le jeune des votes, ça serait bien de leur parler.
Par rapport à ma génération, c'est dur d'être un jeune aujourd'hui. Nous, on avait plein d'espoir, on avait plein d'idées, on sentait qu'on pouvait manger le monde, excusez-moi l'expression. On ne parle pas des jeunes dans cette campagne, quasiment pas. On parle pas de leurs problèmes. Je ne parle pas du système universitaire, parce que ceux qui ont compris Parcoursup, je leur dis bravo. Comment ça marche? Donc on pourrait parler de ce que j'ai appelé la dotation universelle pour chaque jeune à 18 ans qui serait prise sur les multinationales du numérique et qui donnerait un capital financier départ. Mais là, excusez-moi, si on parlait de ça, les jeunes, ils diraient, au moins les politiques, ils nous donnent une chance.
Et on ramènerait quelques jeunes aux urnes.
Mais si c'est vrai, pourquoi vous
dites... Parce que je trouve que ça suffit de considérer les jeunes comme une catégorie à part. Les jeunes, c'est une évolution d'âge. Après, il y a les vieux, il y a les moins vieux, il y a les 40 ans qu'on ne prend plus. On segmente. Les jeunes, ils ont surtout un ras-le-bol absolu des politiques. Ils ne demandent pas des mesures pour eux. Ils demandent d'avoir des politiques admirables, entre guillemets. Et il n'y en a plus un qui veut voter. Et ils se foutent complètement de la banque des jeunes. Non, mais je rêve. Création d'une banque des jeunes, comme si on n'avait pas des banques formidables qui savaient tout à fait faire des prêts. sait qu'ils le font déjà. Ensuite, on va leur donner de l'argent.
Est-ce qu'on parle des jeunes dans cette campagne ?
On parle de personne, de toute façon, non. Ni des entreprises, ni des jeunes.
C'est assez paradoxal, parce que finalement, les jeunes sont assez engagés sur la lutte contre le réchauffement climatique, l'égalité hommes-femmes. C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à les emmener vers les urnes. Moi, je le vois localement, dans ma ville, à Courbevoie. Je vois bien que les jeunes, aujourd'hui,
ils ont des causes,
ils sont pas sur les marchés avec vous.
C'est vrai.
On les voit pas tellement
s'engager. Ils sont très présents à l'extrême droite. On les voit beaucoup à l'extrême droite, sur les plateaux, en tout cas.
Et ce qui est vrai, il y a une étude qui a été publiée par BVA, c'est qu'il y a des nouvelles formes, je reprends ce que vous disiez, qu'il y a des nouvelles formes d'engagement qui passent plus forcément par le bulletin de vote, avec un bulletin de vote dont les jeunes ne voient pas forcément la portée ou l'efficacité, alors que des manifestations pour le climat, alors que des tweets créent une visibilité, à défaut forcément de transformer la société, ça donne quelquefois l'illusion d'avoir un peu plus prise sur les choses qu'un bulletin de vote. Mmh. Et donc tout l'enjeu pour les politiques, c'est de démontrer à nouveau la puissance performative du vote qui pourrait changer la donne pour la jeunesse ou pour des causes qui leur sont chères. Et je pense notamment au climat.
Et puis d'aller les chercher aussi sur les réseaux qu'ils fréquentent, je pense.
De pouvoir
véritablement aussi
ce qu'a fait Macron.
Inonder les réseaux et les canaux aussi qu'ils fréquentent.
Un dernier son, Gilles ?
Non, il y en avait quatre.
D'accord, je croyais qu'il y en avait trois.
Non, quand même. J'avais pas. Excusez-moi, j'ai eu un petit
week-end. On va passer au coup de cœur et au coup de gueule. On va commencer avec Sophie Menton, rapidement.
Et oui, j'ai un coup de cœur parce que je critique suffisamment souvent la télévision en ayant ras-le-bol des programmes qu'il peut y avoir. Et ce soir, mon coup de cœur va aux lauriers de l'audiovisuel. Alors, les lauriers de l'audiovisuel, c'est un peu les Oscars de l'audiovisuel français. Et ils vont récompenser les meilleurs programmes, les meilleurs reportages, les meilleures émissions d'information pour les enfants, pour les grandes causes, pour le médical, etc. Ils sont au Théâtre Marigny ce soir. Vous pourrez les voir sur TV5 Monde mercredi soir. Ça fait 27 ans et c'est une association. Il n'y a pas de subvention, il n'y a rien du tout. C'est Patrick Bézier qui tient ça à bout de bras, qui réunit entre 500 et 700 professionnels de la télé et de la radio. Et ça va vraiment de pivot... je ne devrais pas le dire, zut, parce que c'est un secret.
Non, mais il y a... vous avez
qui
spoilé.
Va, entre autres, être félicité ce soir. Mais je trouve ça formidable. Donc, je ne dis pas les noms. De toute façon, il y en a énormément qui vont être récompensés.
Il y a beaucoup de gens,
et bravo Patrick Bézier, parce que franchement, on est toujours dans le négatif, etc. Et là, ils font ça tout seuls.
Ah, voilà.
Et bravo Bernard Pivot.
Et voilà.
Merci d'assister.
Donc, si vous voulez vous intéresser, vous allez sur le site des lauriers de l'audiovisuel. Tout est expliqué. Mathieu Chaigne.
Oui, alors c'est aussi un coup de cœur. On parlait tout à l'heure du vote des jeunes et des catégories. Il y a en tout cas une catégorie qui sortait un peu de son ombre. Grâce à un livre dont on a parlé il y a un mois, le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, j'étais assez sceptique sur la capacité de ce livre à créer l'agenda pendant longtemps. Surtout qu'on sait qu'il y a déjà eu d'autres livres qui ont été publiés sur les EHPAD. Je pense notamment à un livre de quelqu'un qui s'appelait Ella Kerrieff, qui s'appelait Le scandale des EHPAD, qui est sorti il y a 2 ans. On en avait parlé quelques heures, quelques jours, puis il y avait une indignation qui était retombée. Et là, il semble, probablement aussi en raison de la campagne présidentielle, que le sujet continue à être en tête des questions, des agendas des Français. Dans les médias, le sujet continue à être traité, remarquablement bien traité aussi notamment par Le Monde, et ça fait partie des articles les plus vus. Et on voit qu'il y a des solutions de long terme qui exigent des choix clairs de la part de la France, mais des solutions qui existent. Je pense notamment à l'Espagne, l'exemple espagnol, où on voit que 2/3 des personnes dépendantes demeurent à domicile. Et je pense à un autre exemple, c'est l'exemple italien, où on voit qu'a été mis en place un système avec ce qu'on appelle des badanti. Ce sont des personnes qui logent au domicile même des personnes âgées, qui permettent, alors il y en aurait entre 400 000 et 800 000, c'est dur de cerner le nombre exact, parce qu'il y a aussi toute une partie de ces personnes-là qui ne sont pas déclarées, c'est la réalité en Italie. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il existe des contre-modèles qu'on pourrait imaginer en France, avec 3 questions qui se posent in fine pour nous. C'est 1, est-ce qu'il doit y avoir des EHPAD dans le système marchand, dans les Landes par exemple? Dans les Landes par exemple, il n'y a qu'un EHPAD privé, tout le reste est géré par le public. Et
mais
encore un article du Monde.
Qui n'est pas un gage de qualité, c'est ça, bien ça le problème.
Qui n'est pas un gage, mais avec, c'est la deuxième question, c'est quel est le taux d'encadrement? Et on sait bien que le taux d'encadrement est le taux d'encadrement personnel,
que ce soit privé, public,
exactement.
C'est le sujet du personnel,
les contrôles, le taux d'encadrement. Alors que le public impose un taux d'encadrement, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de penser que les gens dans le public...
Non, mais c'est que la loi marchande, c'est que le secteur, si à un certain moment où on rentre dans une norme du marché, il y a une logique de compétitivité qui peut quelquefois réduire...
Si c'était le cas, on aurait la SNCF, serait formidable.
Non, mais c'est... Je suis d'accord avec vous,
mais sur ce secteur-là,
sur le taux d'encadrement, on peut avoir un minimum.
Les cliniques privées sont formidables, enfin.
Oui, mais heureusement, sur la crise sanitaire, c'est vrai, les cliniques privées ont été là.
Oui, il faut arrêter.
En tout cas, ça pose la question, un taux d'encadrement, et le taux d'encadrement a un lien.
Le public peut l'exiger.
Et puis, moi, ce qui me choque sur cette affaire des EHPAD, c'est la réflexion d'Olivier Véran hier, qui dit, on n'a pas attendu le livre pour savoir ce qui se passait dans les EHPAD, mais que n'avez-vous agi avant? C'est quand même inquiétant, et heureusement qu'il y a eu ce livre pour que le sujet peut-être enfin, comme vous le dites,
tout à fait,
déclenche des réactions. Olivier Véran, quand même, si je peux me permettre,
a raison. C'est clair, Olivier Véran, là.
Oui, vous l'avez entendu hier.
Oui, je l'ai entendu hier. Qu'a dit Olivier Véran? Il a dit simplement que le gouvernement n'avait pas attendu ce bouquin, ce livre, pour agir sur ce sujet de l'autonomie et de la dépendance.
Si.
Nous avons augmenté le congé aidant, on a formé plus de soignants également, parce que c'est un sujet de personnel. Que ça soit public ou privé, les EHPAD, ils manquent de personnel.
Oui. Donc, la maltraitance...
ils ont quelquefois rationné même la nourriture, etc.
On est au-delà de ça.
Il y a des problèmes vraiment majeurs.
Des couches rationnées chez Orpea.
Oui.
On est sur une logique de compétitivité à tout
crin. Cela dit, il ne faut pas les montrer du doigt.
Il y a des enquêtes qui sont en cours.
Il y a une inspection financière.
Vous l'aviez dit, Sophie.
Alexis, sur ce sujet.
Je crois que le gouvernement a envisagé une loi sur la dépendance et la perte d'autonomie qui n'a pas été mise à l'ordre du jour et à l'agenda. Donc, je crois que le chantier...
On a investi plus de 2 milliards d'euros sur le sujet de l'autonomie. Il y a la cinquième branche de la sécurité sociale qui est dédiée à l'autonomie et à la dépendance. Là encore, le gouvernement n'est pas resté sans rien faire sur ce sujet-là.
La réalité du problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une population qui vieillit. On a des gens qui vivent de plus en plus vieux et donc avec tous les problèmes que ça pose en termes de prise en charge. Et donc, il va falloir effectivement qu'il y ait... pour le coup, l'État prenne des décisions stratégiques. On voit bien que ce n'est pas le privé qui va régler ça. Et en tout cas, si ça devait être réglé par le privé, les scandales actuels montrent qu'il y aurait besoin de contrôles beaucoup plus sérieux, rigoureux et stricts que ce qui se passe actuellement. Et d'ailleurs, la déclaration d'Olivier Véran, elle est assez maladroite, parce que de deux choses, soit il savait et il ferme les yeux, soit il ne savait pas. Et en tant que ministre de la Santé, il découvre une réalité... Peut-être d'ailleurs qu'il ne peut pas savoir ce qui se passe dans tous les EHPAD et dans tous les établissements médico-sociaux. On ne peut pas lui faire ce reproche-là, mais je pense que la déclaration est un peu maladroite, parce que le scandale tel qu'il a été décrit dans cet ouvrage est vraiment un scandale. Et je pense que ça doit amener tout le monde à réfléchir sur des solutions qui d'ailleurs ne sont pas forcément, et ça a déjà été dit sur le plateau, dans la création d'établissements supplémentaires, mais plutôt
d'autres solutions.
Comment est-ce qu'on fait pour que les gens soient maintenus dans leur domicile le plus longtemps possible, y compris d'ailleurs dans ma ville. Et je suis élu à l'urbanisme, on réfléchit aujourd'hui à la création d'appartements dits habitat inclusif qui, dès la construction, intégreraient des détecteurs de chute, un certain nombre de facilités technologiques pour accompagner les gens qui sont en perte d'autonomie, et même, dans certains modèles, des conciergeries à partir d'un certain nombre de logements qui permettraient que les gens puissent avoir chez eux, en bas de chez eux, une personne pour les aider à faire leurs courses, pour prendre leurs rendez-vous médicaux, etc., etc. Parce que je pense que la solution du tout EHPAD et du tout établissement collectif a montré ses limites et qu'il faut que la France rapidement se pose des questions sur d'autres modèles, d'autres manières de faire. L'Espagne a été citée, l'Italie. Je pense que la France n'est pas objectivement le pays modèle en Europe sur la prise en charge des personnes âgées et l'accompagnement de la grande dépendance.
Un mot, Sophie.
Un tout petit mot. Est-ce qu'on peut en profiter pour quand même faire appel à la responsabilité individuelle? Les EHPAD où je suis allée très souvent, parce qu'il y avait des gens de ma famille, qui vous disent que les familles passent une fois par trimestre ou une fois par an.
C'est pas le sujet.
C'est lamentable.
Pourquoi c'est pas le sujet? C'est le sujet, mais c'est un autre sujet. C'est quand on parle des femmes battues et qu'on nous répond Oui, mais il y a des hommes battus, c'est la même chose.
Ça veut dire que dans les EHPAD, je suis sidérée que ce soit ce livre qui ait tout révélé et que les familles n'aient pas eu suffisamment de poids. Parce que moi, quand j'allais dans un EHPAD et que je râlais parce qu'il manquait tel ou tel truc.
Oui, mais ils ont peur des représailles, souvent.
On peut pas dire à des familles que tout le monde a peur. Les familles doivent se mobiliser.
Mais les familles se mobilisent.
Alors, faut vraiment saluer l'engagement des soignants qui sont dans les EHPAD, qui font quand même un boulot difficile.
Mais ne changez pas, ne déplacez pas le sujet.
Mais
c'est pas de dire ça va pas et de dire oui, mais il y a des choses qui vont. Oui, il y a des choses qui vont. On parle des choses qui ne vont pas.
Et moi, je rejoins ce qu'a dit Alexis Bachelet. Il y a des solutions locales qui peuvent être trouvées. L'habitat intergénérationnel, ça fonctionne dans les communes. Et là encore, bien sûr qu'il faut trouver des solutions pour que nos personnes âgées puissent vieillir le plus tard possible chez elles. C'est la télémédecine, c'est les aidants aussi. Comment est-ce qu'on facilite
c'est d'ailleurs les familles, oui, c'est ça.
Hein, les choses pour les familles.
Moi, je parle de famille, d'accord, mais c'est les aidants.
Non, mais un chiffre. Ouais. Plus d'un million aujourd'hui de personnes qui ont plus de 85 ans, on sera à 5 millions. En 2060. Donc, au fait, le sujet, il est devant nous, c'est que le début...
C'est colossal.
Et donc, ça impose, je pense, la mobilisation générale de toutes les parties prenantes, des familles, des aides-soignants, probablement du privé, pensé sous d'autres façons, des collectivités locales, mais je pense que, je reviens sur ce qu'a dit Sophie, les familles, on sera confrontés aucune famille ne sera épargnée par le sujet, et donc comment peut-on faire pour que les personnes âgées ne soient pas vues uniquement à travers un prisme utilitariste contribution à la société.
C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Hein. Lui, il veut qu'on cesse justement cet aspect mercantile des EHPAD. Un petit mot, un petit coup de gueule sur Madame Delaunay, qui a été ministre en charge des personnes âgées, qui a tweeté ce week-end. Lors de mes nombreuses visites en EHPAD, j'ai pratiquement toujours détecté des cancers cutanés de visage ou des mains qui ne l'avait pas été, mais en tant que ministre, mon rôle n'était pas d'examiner les résidents.
Comment est-ce qu'on peut être plus à côté
de la plaque que ça?
Non, mais Michèle Delaunay, je crois, a fait beaucoup quand elle était ministre.
Elle a fait beaucoup,
ça a été reconnu comme une ministre qui était particulièrement impliquée et investie sur le sujet.
Et donc,
ce tweet est probablement maladroit, mais je pense que ça ne doit pas enlever l'engagement dont elle a fait preuve lorsqu'elle était ministre.
Oui, enfin, elle était ministre et il y avait de la maltraitance. Et qu'est-ce qu'elle a fait sur la maltraitance?
C'est pour ça qu'il faut renforcer les enquêtes, les choses comme ça, c'est inadmissible.
Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant, vous continuerez avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, on va parler des parrainages évidemment, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Sophie de Menton, Aurélie Taquillien, Mathieu Chaigne et Alexis Bachelet. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Aurélie Taquillien, c'est un coup de gueule.
Oui, moi ce matin, c'est un coup de gueule sur le harcèlement de rue suite à l'agression de Mila à Lyon. Je crois qu'on a tous été, toutes surtout touchées par des incivilités d'hommes dans la rue. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, sous ce quinquennat, on a verbalisé le harcèlement de rue. Les forces de l'ordre peuvent aujourd'hui verbaliser le harcèlement de rue. Ça va des amendes de 100 euros à 1000 euros. Non, c'est un vrai fait de société.
Il y en a eu combien de gens verbalisés?
Alors c'est une loi qui a été prise en 2018 et il y a à peu près... plus de 4000 amendes qui ont été faites par les forces de l'ordre. Moi, je le vois parce que je suis conseillère régionale d'Île-de-France et dans les transports en commun, il y a à peu près 100% des femmes qui disent harcelées, bousculées dans les transports en commun. Il y a des femmes qui ne prennent plus les transports en commun parce qu'elles se sentent en insécurité. Donc moi, je crois que c'est un vrai sujet. Et sous ce quinquennat, sous l'impulsion de Marlène Schiappa, on a avancé sur le sujet. Je pense qu'il y a beaucoup encore à faire.
Je trouve ça nul.
Bon, mais vous avez le droit, c'est votre avis.
Oui, non,
mais moi, je vous le dis, pourquoi en tant que femme,
je comprends. Je vais dire ce que je trouve nul. D'abord, vous avez raison sur le transport en commun, c'est très particulier en plus. Et je trouve que l'amende dans la rue pour harcèlement, j'ai questionné d'ailleurs plein de
vous avez jamais vous êtes jamais fait embêter vous?
Non, je suis trop moche.
c'est pas une question de moche.
C'est pas une question de moche. Bien sûr que j'ai été harcelée entre guillemets, mais ça m'a jamais gênée. Je n'ai pas été harcelée au sens où je parle de l'amende. Ouais. Je dis, et d'ailleurs ça fait éclater de rire les mômes de 18 ans. Monsieur l'agent, le monsieur là, faudrait lui mettre une amende. Bon, parce qu'il y a harcèlement et harcèlement. Quand on vous touche ou qu'on vous agresse et qu'il y a une bande. c'est très grave et je suis d'accord.
C'est mais important d'en parler. L'amende. Parce que ça a aussi un facteur un peu de prévention, d'éducation.
Qu'est-ce qu'on met dans le harcèlement de rue? Quelle est la définition selon vous?
Vous voulez bien regarder l'agression de Mila, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes vous sifflent.
Bah non, mais alors mettre une amende parce qu'on a été sifflé, je me suis prononcée là-dessus, la réponse est non.
Oui, mais c'est sifflé. Enfin, bon, bref,
on va parfaire
le débat. On a le droit de ne pas.
Non, parce que vous voyez le sifflement années 70 du mec qui est sur son échafaudage.
Il y a le sifflement qui est.
Un petit sifflement. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On est avec des gens très agressifs.
Et c'est du harcèlement.
Je parle du. Oui. Être suivi, être harcelé, être menacé, c'est quelque chose. Vous me diriez être menacé dans la rue, oui. Mais je trouve que le coût de l'amende. Pour harcèlement de rue,
c'est important d'en parler aujourd'hui. C'est important d'en parler.
Voilà. On va passer à vous, Alexis Bachet. Juste signaler cette information qui est assez peu commentée, assez peu sortie. C'est une information de Mediapart qui confirme qu'une enquête de l'Agence nationale de sécurité du médicament a épinglé l'IHU de Marseille du professeur Didier Raoult. Un rapport qui précise que des pratiques qui étaient contraires à la loi et qui pourraient lui valoir des poursuites pénales ont été relevées. L'absence d'un véritable organisme de recherche propre dans l'établissement. Bref, pas de cadre légal dans le cas d'un certain nombre de recherches. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est un rapport très sérieux, très circonstancié. Donc, on va voir quelles seront les conséquences. L'enquête, en plus, suspecte l'Institut d'avoir produit de faux documents afin de valider des recherches. Donc, c'est assez grave. Et je trouve qu'on en parle assez peu. Voilà. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de réaction. On en parle
c'est
assez peu dans la presse.
Parce que c'est Mediapart.
Oui, mais enfin, ils ont eu accès au rapport de la NSM. Donc, voilà. Alexis, votre coup de cœur.
Oui, mon coup de cœur, c'est pour la décision du maire de Cannes, David Lisnard, de parrainer un candidat qui n'est pas le sien, puisqu'il est soutien de Valérie Pécresse, mais qu'il a fait une vidéo sur Twitter pour annoncer qu'il parrainerait Jean-Luc Mélenchon parce qu'il estime que les familles politiques qui ont du mal à réunir leur parrainage, mais qui néanmoins représentent des sensibilités dans l'opinion, doivent pouvoir être présentes à l'élection présidentielle. Et il est président de l'Association des maires de France, mais ce n'est pas à ce titre-là qu'il l'a fait, il le précise bien, c'est à titre personnel. C'est une décision qui incite aussi, pour inciter, je pense, d'autres maires à parrainer, y compris des candidats dont ils ne seraient pas... proche ou soutien, parce que je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui un débat autour de la manière dont sont parrainés les candidats à l'élection présidentielle et que peut-être le système sera amené à évoluer si on se rend compte qu'il est plus, en phase avec ce qu'on doit faire aujourd'hui, date de maintenant de plusieurs décennies. Et en tout cas, je voulais saluer ce geste qui est citoyen républicain et ma foi, ça
exemplaire,
permet aussi
exemplaire.
Peut-être à d'autres maires de.
Alors, comme François Bayrou d'ailleurs qui a créé un site, notredémocratie.fr, pour qu'il puisse avoir des maires qui apportent leur accord pour parrainer un candidat qui ferait plus de 10% dans les sondages.
Oui, c'est une bonne. On rappelle qu'il est président de l'Association des maires de France, donc d'une certaine manière, il donne l'exemple. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'il y a 40 000 élus et que certains n'arrivent pas à avoir leurs 500 signatures.
Alors, en 2017, je crois qu'il y avait à peine un tiers des 42 000 élus qui avaient donné leur signature. On sait qu'il y a eu une réforme en 2016. Auparavant, il y avait uniquement 500 signataires tirés au sort qui voyaient leur nom rendu public. Aujourd'hui, c'est l'intégralité du nom des signataires qui est rendu public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a bien sûr des pressions qui sont exercées sur certains élus qui auraient donné leur signature et que ça peut créer, par ailleurs, on le sait, dans des conseils municipaux, ça peut créer des dissensions. David Lisnard a tout à fait raison de rappeler que parrainage ne vaut pas soutien. Néanmoins, quand vous êtes élu d'une petite commune et que vous soutenez pardon, que vous donnez votre parrainage, vous voyez le lapsus est révélateur, que vous donnez votre parrainage à un élu qui peut paraître extrême, même si c'est pour faire vivre la démocratie, bah, vous pouvez être suspecté d'accointance. Et donc c'est extrêmement dur, et pour ça il y a des mesures à prendre qui sont simples. Il y a une première mesure, c'est est-ce qu'on ne doit pas avoir un parrainage rendu secret ? Voilà, ce serait une mesure...
C'était le cas ?
Ce qui, alors, je crois qu'au tout début, ce n'était que 100 parrainages. Ouais, oui. C'était pas secret, mais il y avait que 100 parrainages au tout début. Et ça a été en 74, on est passé après 74, on est passé à exactement.
Enfin, là, il y a visiblement.
Alors
certains disent c'est toujours la même chose. Ils font du cinéma, etc.
Là,
quelques phrases. Éric Zemmour dit c'est très dur. Philippe Bevilliers parle des heures avec les maires. Guillaume Pelletier aussi. Moi-même, je passe un temps fou à téléphoner aux maires pour essayer de les convaincre. Marine Le Pen, nous n'avons pas les parrainages. C'est une situation démocratiquement terrifiante.
Oui,
je n'ai jamais été aussi inquiète. Et alors Fabien Roussel ce matin qui dit « Je vais tout faire pour qu'il y ait zéro signature en direction de l'extrême droite. Zemmour stigmatise à chaque meeting ceux dont le prénom à consonance arabe n'ont plus rien à faire dans notre pays. C'est un homme condamné plusieurs fois. C'est une menace pour la République. » Donc ce matin, lui, s'est déclaré favorable à ce que certains n'aient pas leur candidat. Il dit « Si certains n'arrivent pas à avoir leur parrainage, c'est qu'ils ont un problème avec la République. » Et Pierre Jacquemin dit « Il va être content d'entendre ça, le camarade Mélenchon. »
C'est évidemment très excessif, mais il est également, enfin ça je m'adresse aux sociologues, mais le fait est qu'il n'y a jamais eu autant d'extrêmes. Et là, on a quand même une campagne électorale très extrême, entre un communiste qui a l'air tout gentil maintenant parce qu'il mange des saucissons, avec un mec d'extrême gauche.
On sent que les communistes mangent des saucissons.
Oui. Non, mais on est content que les communistes mangent des saucissons.
De la viande rouge.
Et de la viande rouge et du pinard.
Allez à la fête de l'humain, vous allez voir.
Oui. Donc, un communiste qui a l'air très gentil, mais qui est quand même communiste. On a des extrêmes gauche et on en a deux d'extrême droite, même si Marine Le Pen ne fait pas moins figure d'extrême droite. Donc, alors, est-ce qu'il n'y a pas un rejet de cet extrémisme aussi ? On peut se poser la question. Parmi les maires.
Non, mais quelle je comprends
c'est
pas.
C'est pour ça qu'ils ne donnent pas leurs signatures, parce que ce sont les extrêmes qui n'ont pas les signatures.
Oui.
Alors que, par exemple, on a Anne Hidalgo qui a 1%.
Ils ont des élus locaux. Ils ont une assise électorale.
Oui,
locale,
mais il y a aussi un politiquement correct. Et peut-être que le fait qu'il y ait tellement d'extrêmes fait peur aux maires. Et dans les villages, ça s'est tendu. Ils disent, certains maires, qu'ils seraient menacés. Enfin, bref.
On va y revenir, parce que c'est un sujet intéressant. Bien évidemment, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Nous parlons des parrainages, de ces parrainages que certains candidats n'arrivent pas à obtenir. Je vous signale juste cette information. Air France a annoncé annuler tous ses vols en direction de la Russie et de l'Ukraine. Donc on sent qu'il y a une certaine tension qui est en train de monter, avec en plus le président russe, enfin le Kremlin, qui a fait savoir qu'il n'était pas à l'ordre du jour une rencontre avec Joe Biden. Donc la situation...
Il y a 1000 Français qui vivent en Ukraine.
Ouais, absolument.
Qu'on a fait revenir en principe.
On va en reparler dans un instant. Parrainage, donc, avec ces réactions, toujours, tout de même, hier, Olivier Véran, toujours, il était chez nos confrères de LCI, il a dit que s'ils n'avaient pas leur parrainage, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à convaincre les élus locaux de les parrainer. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Alexis Bachelet, vous avez fait campagne, qu'est-ce que ça vous inspire, en fait ? Et est-ce que vous êtes d'accord avec Fabien Roussel pour dire, tant pis pour ceux qui ne les ont pas, et c'est comme ça ?
D'abord, je crois qu'il y a quand même un principe, c'est la liberté. Donc, on ne va pas obliger les maires à parrainer quelqu'un qu'ils n'ont pas envie de parrainer. Donc,
oui, mais s'ils ont envie et qu'ils ont peur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils auront des représailles, c'est ce que nous ont dit certains de ceux qui sont en train d'essayer de convaincre des maires, c'est-à-dire que, à la limite, ça pourrait être dans leur conviction. Par exemple, comment s'appelle-t-il, Laurent Jacobelli nous racontait qu'un maire sur deux qui a parrainé Marine Le Pen refuse de le faire aujourd'hui parce qu'il y a eu des conséquences à ce vote au niveau des conseils régionaux, des conseils généraux.
Ouais. Alors, bon, ça, c'est ce que disent systématiquement la plupart des candidats qui ont du mal à réunir leurs signatures. Ils disent qu'ils devraient déjà les avoir, mais que c'est parce que les maires ont peur. Après, je pense que ça peut arriver, hein, peut-être. Moi, je le regrette si effectivement un maire a parrainé quelqu'un, un candidat, et que le conseil régional ou le département exerce des représailles sur sa commune, c'est tout à fait scandaleux et il faut le dénoncer. Mais bon, à un moment donné, tout ça, moi, je voudrais à un moment donné qu'on apporte des preuves. Vous voyez, il suffit pas de dire c'est un peu des rumeurs urbaines. Il paraît qu'il y aurait eu des représailles. Moi, j'attends qu'on les montre, parce que si c'est vrai, ça peut être dénoncé comme tel et ça mériterait même d'être dénoncé. Mais moi, je pense qu'il faut être plus prosaïque. Là, beaucoup de maires, je pense, faut se rappeler que la majorité des maires, les plus de 34 000 maires, sont dans des petites communes de moins de 3 500 habitants. Autant dire, ça veut dire que tous les jours, ils croisent leurs concitoyens et ils peuvent, dans certains villages, ils connaissent tous leurs administrés par leur prénom. Donc effectivement, et dans ces petits conseils municipaux, la spécificité du vote de scrutin dans ces petites communes, c'est que c'est des listes panachées. Ce n'est pas des listes droite, gauche, centre, c'est des listes où on a des gens de droite et des gens de gauche. Et donc le maire, il est un peu la synthèse de ses sensibilités dans sa commune, dans son village. Oui. Et donc il y a beaucoup de maires en fait qui n'ont pas envie ou qui craignent de troubler un petit peu la sérénité de leur conseil municipal, mais et qui n'ont pas
envie de se faire discuter
quand ils croisent les habitants dans leur rue, parce qu'un maire d'une petite commune, il est là sur le terrain tous les jours, et tous les jours, il croise des habitants, et donc c'est vrai que ça peut, il peut avoir cette crainte s'il parraine quelqu'un de clivant. Hein. Après, je pense que s'il parraine des grandes familles politiques, ça choquera peut-être moins, mais sur des candidats un peu à la marge du champ politique, en tout cas sur le plan des idées ou des politiques, il peut avoir cette crainte-là. Et je pense que le vrai sujet, c'est plutôt celui-là. C'est que beaucoup de maires se disent « Non mais moi,
absolument, et dans je ne vais une pas m'embêter avec haineuse, ça,
j'ai déjà plein de problèmes à régler dans ma commune, donc je ne vais pas en plus me prendre la tête avec mon conseil municipal, avec les habitants sur cette histoire de parrainage. » Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de maires renoncent d'emblée à parrainer pour éviter de faire des bagues.
Alors c'est quoi, c'est le système qu'il faut changer? C'est pas normal que des candidats qui ont 15% d'intention de vote ne puissent pas.
C'est pas comme ça que le maire il voit ça dans sa commune.
Je suis d'accord, mais est-ce qu'il faudrait changer?
Ça, il est pas sur les sondages en disant il faut qu'un tel ou un tel ait ses signatures.
Ouais, Mathieu, et puis après Sophie.
Il faut changer parce que c'est impossible que des candidats, comme vous venez de le dire, qui pèsent entre 15-18% ne puissent pas se présenter à l'élection présidentielle. On est en train de dire que la démocratie vacille faute d'intérêt et les candidats qui suscitent un intérêt ne pourraient pas être représentés, ne pourraient pas se présenter. C'est littéralement impossible. Deuxième élément, on voit bien toute l'énergie qu'on gaspille pour parler de cette question parrainages. Ouais. Et l'énergie que nous gaspillons sur ce plateau, alors qu'on devrait parler des propositions des candidats, l'énergie que gaspillent les candidats plutôt que d'aller convaincre des électeurs qui aujourd'hui
démocratique. Bien sûr, aujourd'hui.
Pour régler ce problème démocratique, il y a des propositions très concrètes qui ont été posées. Première proposition, parrainage sous le sceau du secret. Pourquoi on ne le ferait pas? Il n'y a pas de raison valable pour s'opposer à ça. Deuxième élément, il y a les parrainages citoyens. Quelle est la barre? Est-ce qu'on est à 100 000, 150 000, 200 000? Tout peut discuter. Mais c'est vrai que un candidat qui aurait 200 000 signatures devrait pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. N'oublions pas, dernier élément, que cette question des parrainages, elle a aussi une vocation, c'est d'éviter trop de candidatures, farfelues. Donc il faut bien évidemment aussi avoir une barrière à l'entrée. Celle-ci, les deux mesures que j'ai proposées peuvent être une solution concrète.
Oui. Alors, Sophie, il est vrai aussi que dans cette campagne est haineuse. D'ailleurs, les programmes des candidats, on peut infiniment le regretter, consistent à taper les uns sur les autres. Je veux dire, Macron fait l'objet de toutes les haines des candidats, c'est insupportable, on finit par rien n'est plus crédible.
Il n'y a pas que lui, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo s'en prennent tous plein la figure.
Valérie Pécresse, c'est un autre sujet. Là, c'était tous contre Macron quand même. Mais peu importe.
Pas tellement, enfin, je trouve pas, pour l'instant, pas vraiment. Enfin, la campagne, ils sont plus à se taper dessus entre eux.
C'est une campagne haineuse, et en plus, il y a un désamour du politique qui est certain. Donc, on comprend très bien, et Alexis l'a parfaitement dit, que dans les villages, on croise le mec, comment t'as donné ta voix à Zemmour, ou à, je dis Zemmour comme dirait quelqu'un d'autre, mais donc, c'est vraiment grave. D'où l'exemple remarquable de David Lisnard, parce que c'est pas évident, David Lisnard, président des maires, qui donne sa voix à celui qui est le plus opposé à ses propres opinions. Mais moi, je pense qu'on pourrait même carrément, imaginons que, Marine Le Pen n'ait pas ses signatures ou Zemmour, c'est inadmissible.
Mélenchon.
J'irais dans la rue, je me battrais contre eux, certainement, mais je me battrais pour qu'ils puissent avoir leur signature. signatures. Donc on pourrait imaginer que, je sais pas, au sein des maires de France, on mette le nombre de signatures qu'il faut avoir pour chacun, qui soit tiré au sort. Un maire tire au sort. Il y a les trois candidats, ouais. Il tire au sort.
Non, mais il faudra trouver un autre système, effectivement.
Oui, mais attends, un autre système, bien sûr, pour la prochaine fois, mais on n'en est pas à la prochaine fois. Moi, je pense que cette fois-ci, il faut régler le problème.
Vous pensez pas qu'il y a une victimisation quand même des candidats? Vous pensez qu'ils sont vraiment
en difficulté? Oui, je pense qu'ils le sont vraiment. Moi, je pense qu'ils le sont
ils ont
vraiment.
Annulé des voyages. Je pense que vraiment, là,
il y a... Ils sont, ceux qui n'ont pas les signatures au 21 février... Ils sont un peu dans l'urgence, parce que dans moins de 15 jours, c'est terminé.
Il faut trouver une solution immédiate, sous peine, alors là,
il y a une accélération dans les derniers jours, mais...
Mais c'est vrai.
Si vous partez trop loin, ça va pas être possible.
Non, on a effectivement Éric Zemmour qui est à 291 parrainages, Marine Le Pen à 366. Mmh. Oui, il aurait eu des promesses, sauf qu'elles ne sont pas
confirmées.
Elles ne sont pas confirmées. Donc Jean-Luc Mélenchon 370 parrainages, c'est quand même.
Il faut trouver une solution. C'est quoi Alexis, la solution alors?
Yannick Jadot 490, donc il les aura. Mais un auditeur Gourdance me dit parrainer le candidat qui gêne le moins Valérie Pécresse, quelle audace républicaine. C'est un geste tout de même.
Non, mais en fait, c'est surtout David Isner, s'il avait soutenu, parrainé, vous voyez, deuxième lapsus, s'il avait parrainé Zemmour ou Marine Le Pen, compte tenu du contexte de suspicion généralisée de ralliement aux uns ou aux autres, on aurait pu dire qu'il avait des accointances et donc il était obligé d'aller chercher le candidat le plus éloigné de lui pour éviter de penser que parrainage vaille.
Mais il faut trouver une solution. Je trouve que tout le monde en parle gaiement comme ça. C'est pas la prochaine fois, évidemment, qu'on va
on va
trouver.
Pas changer les règles là.
Mais
on
si,
est très proche du maître.
Il faut trouver une solution qui ne touche pas aux règles.
Beaucoup de questions qui nous disent, et ceux qui ont donné des voix à Macron, non candidat, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème, puisque j'ai vu Laurent Fabius qui expliquait que vous pouvez donner votre parrainage à qui vous voulez, sans qu'il soit candidat, si vous voulez donner votre parrainage à Sophie.
Voilà. Parrainage.
À
Sophie de Menton, président. Voilà. François, c'est 500 parrainages.
François Hollande a eu un parrainage, voilà. Effectivement.
Voilà. De lui-même. Non, mais
voilà, donc vous êtes élu, vous pouvez envoyer votre formulaire au Conseil constitutionnel en mettant le nom que vous souhaitez. Donc il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent qu'Emmanuel Macron se présente et donc ont envoyé leur parrainage. Donc ce n'est pas totalement illogique. Donc c'est
moi,
tout à fait possible.
Parce que si vraiment il y avait un Zemmour qui a passé
parrainage, Laurent Fabius nommé par Macron, c'est pratique. Non, ça n'a rien à voir. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il y a des règles. C'est pas Laurent Fabius qui les a choisis. C'est comme ça. Pardon. C'est pas lui qui a inventé.
C'est pas lui qui a écrit la Constitution de la Ve République. C'est Michel Debré.
Ouais. On a Vincent en ligne qui nous appelle de l'Hérault, qui voulait réagir à propos de ses parrainages. Vincent.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Voilà, mais je vous appelle parce que j'ai fait campagne pour Marine Le Pen en 2017. J'étais responsable de canton. Je suis allé voir pratiquement tous les maires de mon canton pour avoir les parrainages, pour avoir un parrainage pour Marine Le Pen. Et aucun m'en a donné. Pourtant, il y a des villages où le Marine Le Pen fait 55% de voix. Donc, quand on dit que les maires ont peur de les administrer,
Mais
parce que les maires n'ont pas peur de les administrer.
Ils ont peur
les maires
de qui, alors
ont peur. Ils ont peur du conseil départemental.
C'est ça, voilà.
Dans l'Hérault, c'est socialiste. Et il y a un maire qui est décédé aujourd'hui, le maire de Cers, qui nous a fait tout un exposé là-dessus. Mmh. Il avait demandé des subventions pour avoir une salle polyvalente. Le département lui avait accordé ses subventions. Oui. Il y a eu les présidentielles, il a donné sa voix à l'époque, je ne sais pas si c'était Jean-Marie ou Marine Le Pen. Les subventions ont été supprimées et on lui a dit c'est parce que vous avez donné votre voix au Front National.
Mmh. Voilà. Oui, mais et c'est, par contre, c'est... Allez-y, Vincent.
Juste un truc sur les. Après, moi, je suis pour la démocratie complète, mais par contre, donner des comme beaucoup de gens parlent là, qu'il faudrait avoir 5 000 ou 200 000 citoyens qui donnent sa voix pour que quelqu'un puisse se présenter. Je pense que c'est pas une autre bonne idée, parce que sinon, il y aurait McFly et Carlito qui pourraient se présenter avec toutes les vues qu'ils ont sur YouTube, hein.
Ouais,
par Papito, avec n'importe qui, quoi.
C'est
Non, je pense que les parrainages devraient juste...
Non, mais pas les maires, si c'est un vote populaire, citoyen. Si c'est un vote citoyen.
Oui, mais justement, vote populaire, moi, demain, je peux donner ma voix à McFly et Carlito, parce qu'ils sont connus sur Facebook.
Oui, ou ceux qui ont des millions d'abonnés, effectivement.
Oui, mais on est fan d'une communauté, je peux aimer McFly et Carlito sans vouloir donner leur... le parrainage pour qu'il soit candidat. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'intelligence des citoyens et se dire que parce qu'ils aiment quelqu'un, parce que j'aime Mimi Mati, je veux que Mimi Mati soit présidente. Donc le like sur YouTube ne fait pas le parrainage. Ouais. Voilà.
On a vu Florian Philippot, un parrainnage. Il annonçait la révolution, qu'il avait le peuple avec lui, et visiblement,
C'est exactement lui. C'est une notoriété virtuelle très forte sur YouTube, mais qui ne s'est pas traduite.
Qui ne s'est pas traduite dans les faits. Merci Vincent de nous avoir appelé, d'avoir précisé. Vous voyez, Alexis Bachelet, vous disiez que c'était du fake, mais c'est ce que m'ont répété des gens qui sont sur le... Des gens qui étaient sur le terrain.
J'ai dit qu'il fallait le documenter, Valérie. J'ai dit qu'il fallait le documenter. C'est tout. D'accord. Parce que c'est pas normal, mais encore une fois...
Il y a des choses qui ne se voient pas, qui peuvent ne pas être documentées.
Qu'on en parle beaucoup à chaque élection, mais qu'à chaque fois, on est en difficulté pour donner des exemples précis et les documenter.
On va...
Typiquement, vous avez une subvention qui est notifiée, vous avez un courrier de notification. Si 6 mois après, il y a des élections au milieu et on vous renvoie un autre courrier en vous disant finalement, la subvention qu'on vous a donnée il y a 6 mois, on ne vous la donnera pas. Voilà. Vous mettez ça sur les réseaux sociaux et vous le dénoncez. Et voilà. Après, il y a la presse locale aussi. Là pour ça. La presse locale, elle parle des chiens écrasés. Donc, si dans un territoire quelconque, il y a quelque chose de cette nature, ça peut quand même faire du bruit.
Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. On va parler de la chasse, puis peut-être de l'Ukraine si on a le temps. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous jusqu'à midi. Et je voulais qu'on parle quand même de la chasse. La chasse à chaque fois qu'un incident, un accident comme celui terrible où on a vu une jeune femme de 25 ans tuée par balle samedi se produit, eh bien, le sujet revient. Et c'est vrai que c'est un sujet qui, de plus en plus... préoccupe et prend de la place, en fait. Souvent, c'était balayé d'un revers de main. Aujourd'hui, vous l'évoquiez tout à l'heure, Aurélie Taquillon, sur le fait qu'on est plus préoccupé par l'environnement, par le bien-être animal. Cette jeune fille se promenait avec son compagnon quand elle a été atteinte par une balle perdue. C'était près d'Aurillac. Et c'est une adolescente de 17 ans qui serait l'auteur du tir mortel. Donc, c'est un des sujets de la présidentielle. Ça va devenir un des sujets de la présidentielle. Est-ce qu'il faut l'interdire le week-end? Est-ce qu'il faut la réglementer plus? Est-ce qu'il faut l'interdire? Je ne sais pas qui a Mathieu.
Alors, pourquoi le sujet monte? Ce qui est paradoxal, c'est que le nombre d'accidents
a diminué.
Exactement, drastiquement. On était à 200 accidents mortels, 232, je crois, un peu plus de 200 en 2000. J'ai regardé ça tout à l'heure, on était à 130 accidents mortels en 2010, et là on est à une dizaine par an. Alors,
depuis 20 ans, tous les 10 ans, le nombre de victimes a été divisé par 2, c'est ce que dit Laurent Jacobelli du Rassemblement National. L'objectif zéro victime, il faut prendre des mesures en concertation avec les chasseurs.
Donc paradoxalement, il y a moins de victimes, mais ces victimes marquent plus l'opinion publique. Le cas d'hier est encore plus flagrant, parce qu'il ne s'agissait pas d'un chasseur le plus souvent. Ce sont des chasseurs entre eux qui se tuent. Derrière ça, il y a un deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, c'est que la chasse, qui était une tradition qu'on avait dire incontestable, qu'on ne pouvait pas toucher, aujourd'hui est une tradition qui a tendance à se rétrécir, c'est-à-dire qu'il y a un nombre actif de chasseurs qui est de 1 million en France, de chasseurs actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la place de la chasse dans la société française, elle a structurellement tendance à décroître et donc se pose la question de la cohabitation entre les chasseurs et les non-chasseurs. Mmh. Et là, ce qui est vrai, c'est que il y a toute une partie de citoyens, je pense notamment aux néo-ruraux qui n'étaient pas forcément habitants dans les campagnes et qui du coup ont du mal à accepter une tradition à laquelle ils n'adhèrent pas, à laquelle leurs parents n'ont pas adhéré et qui entendent remettre en cause ce qui aujourd'hui vient un peu embêter leur quotidien, leur week-end et ceux de leurs enfants. Donc c'est pour ça, c'est pour ces différentes raisons que le sujet de la chasse, alors que ça fait moins de victimes qu'il y a 20 ans, est plus prégnant, plus fort aujourd'hui.
Mmh. Olivier nous dit, il y a eu 22 morts par accident de trottinette en 2021. Doit-on interdire la trottinette ou réglementer et sévir?
Mais la différence, c'est que la trottinette, c'est malheureusement la victime et celui qui est en trottinette.
Et
voilà, donc là, la victime, c'est plutôt ceux qui se promènent, c'est plutôt les promeneurs que le chasseur.
Interdire la chasse le week-end, ça serait interdire la chasse tout court, parce que
on pourrait
ceux qui pratiquent...
Vous la laissez terminer ?
Ceux qui pratiquent travaillent la semaine et donc le font le plus souvent le week-end. Moi, je rejoins ce que vous disiez. Hein, les accidents ont diminué. C'est un drame terrible. Moi, je pense à cette famille endeuillée. C'est une tradition française. Ça aussi, cet effet de régulation aussi pour notre biodiversité, c'est essentiel pour notre nature. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être mener une réflexion sur comment on régule mieux la chasse. Est-ce qu'on réfléchit au niveau local ? Est-ce qu'on ne laisse pas la main aussi localement à ces fédérations de chasseurs pour mieux articuler, pour mieux faire la signalétique dans ces endroits où il y a des endroits pour chasser, des endroits pour se promener. Mais en tout cas, c'est certain qu'il faut pouvoir poser le sujet sur la table. Et puis, le pareil, permis de chasse, c'est 15 ans, je crois.
Oui, c'est ça. Donc la question peut être aussi sur l'autorisation aux mineurs.
Que tout ça, Alexis, il faut quand même Alexis Bachelet poser ces questions.
Non, mais je crois que Mathieu a dit l'essentiel et qu'il y aura un moment dans la vie de la société française où effectivement il y a des mesures plus restrictives qui viendront parce qu'il y aura une cohabitation qui sera rendue plus difficile. On voit bien qu'il y a de plus en plus d'urbains qui vont s'installer dans des zones rurales ou semi-rurales et qu'effectivement il y a des pratiques et des traditions qui étaient acceptées à une époque et qui deviennent moins tolérables, surtout quand il y a des accidents qui sont regrettables. Moi, je ne veux pas profiter de l'accident pour dire qu'il faut interdire la chasse. La position d'interdiction de la chasse, elle est défendue notamment par Yannick Jadot le week-end et les vacances scolaires. Je pense qu'il y a une position qui finira par s'imposer parce que c'est du bon sens. Et comme il y a de moins en moins de gens de façon qui pratiquent la chasse, il y aura plus les sujets et il y aura
un million
de chasseurs.
Cette forme de lobbying des chasseurs pour maintenir le moins de régulation possible, quoi, parce que c'est ça le sujet en fait.
Ouais. Voilà. Sophie.
Alors, j'ai deux choses à dire. D'abord, je pense que ça devrait être absolument interdit de mettre une arme à feu dans les mains d'un mineur, chasse ou pas. Donc, ça devrait être interdit. Deuxièmement, je pense qu'on pourrait réserver la chasse, par exemple, le samedi, en interdisant aux promeneurs d'aller dans certaines zones. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus, avec un vrai règlement. Et enfin, je me pose la question de la souffrance animale, où il y a des mouvements qui sont de plus en plus puissants. Moi, je dois dire que j'ai de plus en plus de mal. J'ai chassé quand j'avais 18 ans parce que mes parents m'ont mis un fusil entre les mains. Ça a duré un an. Et je dois dire que voir le plaisir de tuer une biche ou les oiseaux, on se nourrit, etc. On peut imaginer que c'est moins violent, mais tirer, c'est de plus en plus violent. La souffrance animale, c'est quelque chose de terrible.
C'est moins accepté dans la société.
Et ça va être de moins en moins accepté. Et je dois dire que personnellement, je suis de plus en plus réfracteur à la chasse, même si on vous raconte que d'ailleurs, il y a une utilité parce
la
que
régulation pour les sangliers,
la régulation, etc., etc. Voilà. Donc je suis. Et Luc Ferry ce matin est intervenu justement. Alors lui, il est violemment contre qu'on fasse souffrir les animaux. Il dit que c'est assez sadique. Je suis pas loin de le rejoindre. Hein.
Bon, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont en train de changer également et d'évoluer.
Mais rien à voir avec l'accident qui est inadmissible.
Non, mais ça... Alors que Nathalie nous dit, pour vous Mathieu Chêne, que les gens qui sont victimes des accidents de trottinette sont aussi les piétons. Moi j'ai failli me faire renverser la sortie avec un gamin qui dévalait à toute allure avec une trottinette. C'est vrai que si vous êtes percuté par une trottinette, c'est pas terrible non plus. Ce qui se passe, on n'a plus beaucoup de temps, hélas, pour parler de l'Ukraine, mais on sent que visiblement la tension est toujours là. Emmanuel Macron hier s'est entretenu assez longtemps avec Vladimir Poutine, et pourtant ce matin on a vu que le Kremlin démentait un possible sommet avec, avec Joe Biden. Il y a un espoir, sauf que ce matin, on entend que Moscou a déclaré qu'un obus tiré depuis l'Ukraine avait détruit une installation frontalière utilisée par le service fédéral de sécurité russe. Personne n'a été blessé, mais on voit qu'il va y avoir...
Bien sûr, il y a à peu près 1500 violations du cessez-le-feu à la frontière ukrainienne. Je crois qu'aujourd'hui, la Russie s'est donné moyen de lancer une nouvelle agression contre l'Ukraine. C'est à peu près 150 000 hommes à la frontière ukrainienne. C'est des manœuvres navales en mer Noire. Mais là encore, je crois que Emmanuel Macron, en tant que président de la France, président de l'Union européenne, prend ses responsabilités.
Fait le maximum
pour éviter qu'on ait une guerre à nos portes qui pourrait avoir des conséquences sur nous, sur les Français, sur la hausse des prix de l'énergie, sur notre sécurité. Donc là, il y a un espoir diplomatique aujourd'hui qui se joue.
Il joue gros aussi politiquement, Emmanuel Macron.
Mais il prend des risques, très clairement, mais là encore, il fait le job. Il essaye à tout prix d'éviter une guerre à nos portes.
Alors, il y a des gens qui vous disent que c'est des coups de com', qu'il joue au petit télégraphiste, ce qui est absolument faux, parce que, je veux dire, quand on a une... Il faut voir ce que c'est, quand on prend l'avion pour la Russie et qu'on va être face à Poutine et qu'il y a une guerre qui est en jeu, moi je veux bien que ce soit des coups de com', mais on doit avoir autre chose. On a quand même quelque chose...
Et puis
chose
c'est qui un vous... président qui est respecté, écouté, on le voit par le président russe, il a réinitié le discours avec Moscou.
Je trouve qu'il a un moment très important de son quinquennat, pas de bol, j'ai envie de dire, parce que c'est difficile de se déclarer dans une circonstance pareille.
Mathieu Cheng.
Non mais...
Alors, pardon, alors allez-y, Alexis Bachelet.
D'abord, Emmanuel Macron, c'est normal qu'il soit en première ligne parce qu'il est aussi président de l'Union européenne. Donc,
c'est à ce titre-là qu'il intervient.
Heureusement qu'il ait fait preuve d'un activisme diplomatique. Après, je crois que le sujet, c'est pas de dire est-ce que c'est bien pour lui, est-ce que c'est mal. Enfin, le sujet est pas là. Le sujet, c'est que la guerre de retour en Europe. Sur des questions de frontières qui datent, les frontières étaient considérées comme intangibles depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a déjà eu une première entorse grave avec l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine. Et à l'époque, il n'était pas question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Donc, on voit bien que l'histoire de l'OTAN est un prétexte. Que je vois qu'il y a des candidats, y compris à la présidentielle en France, Zemmour, Le Pen, qui disent « Oui, mais vous comprenez, l'OTAN va annexer la Russie, c'est scandaleux, etc. Bon. » C'est du pipeau tout ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine est dans une stratégie agressive vis-à-vis de ses voisins, ses plus proches. Il a quasiment mis sous sa coupe le Bélarus, parce que le président du Bélarus, élu dans des conditions scandaleuses de fraude, est littéralement venu déposer la souveraineté de son pays au pied de Poutine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui dérange Poutine avec l'Ukraine? C'est que l'Ukraine est un pays souverain, avec des élections libres, où il y a du pluralisme. Et donc, c'est un modèle qu'il perçoit comme un danger pour lui. Ouais. Parce que Poutine, c'est l'inverse d'un démocrate. C'est un autocrate. Il y a beaucoup de militants d'opposition qui remplissent les prisons quand ils ne sont pas carrément empoisonnés. Donc, c'est ça, la Russie, aujourd'hui. Et je crois qu'on a, nous, effectivement, à dénoncer et à se solidariser avec l'Ukraine, qui est la victime d'un régime politique qui veut tout simplement mettre à bas la souveraineté ukrainienne.
Allez, c'est fini, pardon Mathieu Cheng, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Bercoff qui sera avec vous.
Au revoir.
À demain.